Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Hauts-de, la radio des Hauts-de-Garonne. Aujourd'hui, pour l'émission, nous allons parler arc-en-ciel, puisque c'est le thème que nous avons tiré la semaine passée. On peut vous rappeler aussi que vous pouvez nous retrouver tous les mardis de 12h30 à 13h, en rediffusion de 18h30 à 19h, ou même en podcast sur le site www.hautderadio.net. On commence tout de suite avec Ingrid. Tu es allée à la rencontre de volontaires européens.
Exactement, oui. Hier soir, j'étais dans la résidence du Crous en train de déambuler, de rendre visite à nos chers volontaires qui ont accepté de répondre à ma simple question. Comment on dit arc-en-ciel dans votre langue ? Un résultat que j'ai mixé avec une petite chanson des Rolling Stones et j'espère que ça vous plaira.
En portugais, arc-en-ciel, ça va dire arco-iris. Parce que arc, c'est la même chose qu'en français, c'est arc, c'est la même chose. Mais iris, ah, c'est en lien avec le couleur. Parce que iris, c'est le couleur de yeux. Et c'est pour ça.
En slovaque, on dit duha.
Cosmin, comment on dit arc-en-ciel en roumain?
Curcubeu. Regenbogen.
Qu'est-ce que ça veut dire?
L'arc de pluie.
Alors, Chaco, comment on dit arc-en-ciel en géorgien?
Tsisartrela.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
The belt of the sky.
Cool.
Ça veut dire une ceinture sur le ciel.
C'est joli?
Oui, je pense que c'est très joli.
Arco-iris. Arcoíris de colores, hoy te has desparramado y los jardines de flores todos se han engalanado.
Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you. And her face is like a sail.
On dit duga.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire rien. C'est pas très intéressant.
Alors en lituanien, c'est comment?
Vaivorykštė.
Et en italien?
Arcobaleno.
Alors, est-ce que vous avez tout retenu autour de cette table?
Je me souviens de duga, qui veut pas dire grand-chose, et c'est en serbe. Et... Il y a des choses plus intéressantes.
c'est très très Sacha. Moi, j'ai surtout retenu le magnifique poème en espagnol que Ruben a déclamé après avoir dit arc-en-ciel. Ah, c'était improvisé ou c'est toi qui lui as demandé?
Alors en fait, ça vient d'une initiative de Ruben. On était dans sa chambre et il a cherché un poème avec, elle allait absolument dire quelque chose avec une aussi belle voix espagnole et il nous a déclamé un poème comme ça. Bah, du coup, de façon assez spontanée.
Moi, il m'a donné des sueurs.
Je crois qu'on ne peut pas faire plus Ruben que ça. Quoi.
Ça a suscité la danse chez Philippe aussi, derrière la régie. Petit spectacle de flamenco. C'est magnifique.
Mesdames et messieurs, on vous communiquera le numéro de Ruben, histoire que vous puissiez ensuite le contacter si jamais vous voulez avoir un peu plus de spawn. Moi, j'enchaîne tout de suite avec l'arc-en-ciel, du coup... L'arc-en-ciel, ça continue d'être un symbole d'époque en époque. Il y avait le trésor au pied de l'arc-en-ciel et les prochaines et tout ça.
Les
prochaines.
On dit pas les prochaines, je crois.
Les prochaines, les prochaines. Bon. C'est plus joli les prochaines.
Ah,
ça, c'est toujours le même débat. Gecko, Gecko. Je préfère Gecko.
Pain au chocolat, chocolatine.
Et aujourd'hui, ce phénomène de diffraction de la lumière au travers des gouttelettes d'eau, c'est le symbole d'une communauté, les LGBT. Enfin, les LGBTQI+. Enfin, les LGBTQQIAAP+. Bon,
c'est compliqué.
Ça ne veut rien dire, enfin, pour l'instant. En tout cas, on va décortiquer. Ici, autour de la table, LGBT, est-ce que c'est bon pour vous?
Oui. Lesbien, gay, bi et trans.
Ouais.
Absolument. On enchaîne du coup avec le QQIAAP. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça veut dire tout ça?
Alors, je crois qu'il y a queer, je crois qu'il y a asexuel, je crois qu'il y a pansexuel, et il y en a que je connais pas.
Attends,
évidemment,
c'est
trop compliqué.
Il nous manque
quoi? Il vous manque un I et un A.
Inter quelque chose?
Intergenre, oui. Les personnes...
Intersexe.
Intersexe et un A.
Agenré, je sais pas.
Allié.
Allié?
Alors, on va reprendre tout ça depuis le début. Donc, les queer. Les queer, d'abord, c'est pas facile parce que c'est le terme le plus... Bah, justement, pas facile à définir. Puisque au départ, queer, c'était en contradiction, en opposition du moins, avec les homosexuels qui étaient efféminés, les gays qui étaient efféminés, et donc du coup, les queer étaient les homosexuels virils. Et en fait, ce terme, il a très rapidement changé de sens pour aujourd'hui peut-être avoir le sens que vous connaissez.
C'est-à-dire personne avec une sexualité qu'on dit alternative, mais sans grande définition, quoi.
Voilà, exactement. En fait, c'est un terme hyper générique. Qui a perdu de son sens originel. Ensuite, il y a le Q de questioning.
Ah.
Les gens qui se posent encore des questions sur leur sexualité, qui savent pas bien s'ils sont d'une des sexualités au moins ici décrites. Ensuite, il y a les intersexes qu'on appelle aussi androgynes. Donc ça, c'est les parfois, moi ça m'est déjà arrivé dans le tram ou dans la rue de croiser des gens. Impossible de savoir si ce sont des garçons ou si ce sont des filles, parce que leur appartenance sexuelle à un genre ou à l'autre n'est pas définie par leur aspect physique, en fait. Et donc, du coup, ce sont des gens qui, au moins, grâce à ça, peuvent parfois passer d'un sexe à un autre, s'ils sont dans une situation...
D'un genre à un autre.
Voilà, exactement, de transgenre, par exemple, ça peut leur permettre de supporter mieux ce passage-là, qui, pour souvent, est un peu compliqué. Ensuite, il y a les alliés, comme je disais, donc ceux qui sont... Pas concernés.
Attends, les aliens?
Les alliés.
Les alliés.
Non. Les alliés.
Moi, je vous jure, j'ai vraiment pas compris.
Non, mais les alliés, c'est un autre A encore.
D'accord, je ne connaissais pas du tout.
Il y a encore un A, donc c'est alliés, sont ceux qui sont pas concernés par toutes ces dénominations, mais qui sont partisans de la cause.
Ah, c'est ça, moi, en fait.
Exactement, donc nous, on peut tous être considérés comme des alliés.
Cool.
Et enfin, donc, il y a le deuxième A, sont les asexuels. Alors là, c'est un peu... En fait, ça veut dire les gens qui ont des attirances romantiques pour d'autres, mais qui sont pas prêts à avoir des relations sexuelles avec.
D'ailleurs, à ce qui paraît, Chopin était asexuel. Georges Sand le décrit comme quelqu'un de très frigide au lit.
Et ben voilà.
Ouais, c'est pour la petite anecdote.
Parfait. Et ben on prend. Et enfin, il y a les pansexuels. Les pansexuels sont ceux qui sont attirés...
Ça a l'air plus fun déjà. Quand
exactement. Alors là, pansexuel, là, c'est freedom. c'est tout le monde. Intéressé par tous. Donc, hommes, femmes, transgenres, transsexuels, androgynes, asexuels, queer. Bref, il n'y a pas de limite. Et ces gens-là ne définissent pas leur attirance par rapport à une dénomination quelconque. Et enfin, il y a le plus, puisque je vous disais... LGBTQQIAAP+,
ah ouais.
Eh bien, c'est pour tout ce qui n'a pas été défini avant. On peut être gré-sexuel, par exemple.
Gré-sexuel?
Ouais. de l'anglais gris, ça veut dire être asexuel, mais qui aura envie de faire l'amour dans certaines conditions. Comme par exemple lorsque la relation est longue ou sérieuse.
Wow.
Il y a les polyamoureux aussi, qui sont des pansexuels, mais qui ne sont pas attirés par tous. Seulement par exemple, les hommes et les transsexuels, mais pas par les femmes ni les asexuels.
Ah bon, polyamour, c'est pas quand on a plusieurs...
Oui, je crois que c'est lorsqu'on a plusieurs relations amoureuses en même temps.
Eh bien, je ne crois pas. À moins que Wikipédia m'ait menti, ce serait pas la première fois, remarque. Donc si je dis une bêtise, venez pas me casser la gueule à la fin.
Mais... Ça se trouve, c'est Nadine Moirano qui a écrit l'article sur Wikipédia. Tu sais, j'adore alors là, quoi.
Alors
ça,
là,
c'est mal.
Je retire tout ce que j'ai dit à ce moment-là, si c'est elle qui a écrit ça. Bref, moi je voulais revenir au symbole, le drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc sur ce drapeau-là, il y a 8 couleurs. Rose, rouge, orange, jaune, vert, indigo, bleu et violet. Bon, il faut relever quand même que la diffraction de la lumière blanche, telle que Isaac Newton l'a définie, ne compte que 7 couleurs, c'est-à-dire pas le rose, pas la toute première couleur. Bon, il faut aussi dire que Newton avait sciemment ajouté l'indigo pour que la gamme des couleurs matche avec les gammes musicales de Rémi Fa Sol La Si.
Oh, okay.
Ok. Donc, on est déjà sur du bullshit de bullshit.
C'est n'importe quoi, en fait.
Bref, donc on disait rose, rouge, orange, jaune, vert, indigo, bleu et violet. Et toutes ces couleurs, elles ont une signification. Le rose pour la sexualité, à n'en pas douter. Le rouge pour la vie et la guérison. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 80-90, le sida a fait des ravages parmi les homosexuels par manque d'informations à ce sujet. En fait, le gouvernement ne communiquait pas assez face à cette maladie. Il y a le orange pour la fierté. On peut assez de prime abord penser à la Gay Pride, par exemple, avec les chars et toute cette fierté qu'il y a autour de ça, histoire de sensibiliser. Il y a le jaune pour la lumière du soleil. Bon, voilà, on ne peut pas toujours avoir une bonne explication. Il y a le vert pour la nature, parce que...
C'est beau, la nature.
À l'inverse de ce que disait une dame dans Le Petit Journal à l'époque, les homosexuels, c'est contre nature. Eh bien non. Eh bien non, ce n'est pas contre nature. Et le vert est là pour ne pas l'oublier. L'indigo pour l'art et la magie. Voilà, alors là, je pense qu'ils n'avaient plus d'idées. Le bleu pour la sérénité, et ça c'est assez important de pouvoir assumer sa sexualité dans la sérénité, et le violet pour l'esprit. Le premier drapeau arc-en-ciel utilisé comme symbole du mouvement LGBT a été conçu et réalisé à la main par le graphiste et militant américain Gilbert Baker pour la Gay and Lesbian Freedom Day Parade de San Francisco le 25 juin 1978. L'origine du drapeau n'est pas établie, mais il a été suggéré qu'il aurait été dessiné pour représenter la diversité des couleurs, la diversité des couleurs pour représenter la diversité des orientations sexuelles. Et il a été aussi inspiré par la chanson Over the Rainbow, chantée dans le film Le Magicien d'Oz par l'actrice Judy Garland, dont je vous laisse écouter un extrait totalitaire. On passe tout de suite après cette chanson incroyable, cet extrait du Magicien d'Oz.
Cet extrait totalitaire.
Cet extrait totalitaire à petite moustache qui fait des autodafés. Bref.
Philippe ne comprend pas.
Comment rebondir après ça,
Richard, puisque tu vas nous parler un peu de musique.
Exact. Et d'ailleurs, j'en profite du fait que tu aies parlé du Magicien d'Oz pour, puisque la musique dont je vais parler a longtemps été victime d'une rumeur qui voulait que ce soit la bande originale du Magicien d'Oz. Super transition, merci David.
Je t'en prie.
Donc, bonjour à tous. Pas grand monde au studio aujourd'hui, au moins toujours plus que la semaine dernière. On est là cette semaine avec David, toujours debout, toujours vivant, et aussi avec Ingrid, toujours la banane. Car vous l'aurez compris, si jamais aujourd'hui je cite du Renaud, enfin son pire album, c'est que l'on va parler musique sous le thème de l'arc-en-ciel. En effet, dans mes recherches d'un sujet en rapport avec le mot arc-en-ciel, je me suis penché sur sa définition qui est, je le rappelle, puisqu'il faut le faire, un météore en forme d'arc résultant de la réfraction, de la réflexion des rayons du soleil. Voilà, une définition claire du Larousse sur laquelle j'ai essayé de m'appuyer sans succès parce que je ne savais pas de quoi parler, et vous pouvez imaginer que ça ne m'a pas particulièrement avancé. Donc, j'aurais pu parler de léprocone et de légende irlandaise pour parler d'un pays qui m'est cher. D'ailleurs, n'hésitez pas à le visiter, hein. L'Irlande, c'est quand même fichtrement beau. Mais non, au final, j'aurais pu en parler 2 minutes max, et j'aurais dû m'étendre à d'autres sujets, et je savais bien que des mauvaises langues comme Guillaume, ici absent, se seraient fait un plaisir de m'appeler Père Castor. D'ailleurs, Guillaume, si jamais tu nous écoutes, bon courage pour ton intervention, on pense à toi ici. Du coup, j'ai réfléchi... David, pourquoi tu rigoles ?
Non, je rigole pas.
Du coup, j'ai réfléchi et j'ai cherché dans une des choses que j'aime le plus, la pop culture. Alors, ça m'est venu un peu comme une épiphanie. Quel est le spectre lumineux de la lumière le plus connu dans la culture populaire européenne ? Bon, en studio, vous avez tous la réponse.
Une question qu'on se pose tous les matins, d'ailleurs. Hein, parce
évidemment,
que...
évidemment. Moi, je pense à ça quand je suis sous la douche, tout seul. Donc, il s'agit bien sûr de la pochette de l'album du groupe anglais Pink Floyd, mais Dark Side of the Moon. Mais oui, Jamy. Leur album le plus connu, le plus vendu et à titre personnel, un de mes préférés. Et j'imagine d'ailleurs qu'autour de cette table, vous le connaissez tous.
Oui, oui, oui.
Oui.
Philippe, très content. Oui, un grand oui. C'est un oui pour
c'est un oui.
Et
il
est à 100% à fond. Alors pour ceux qui n'associent pas cette image de cet album, en gros, imaginez-vous un fond noir avec dessus un triangle dont on ne perçoit que les côtés, blanc. Un trait blanc, un faisceau lumineux, le traverse d'un côté, et de l'autre, le spectre lumineux est décomposé, faisant donc un arc-en-ciel. Et ouais, j'ai réussi à trouver le mien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album mythique ? Alors, pour être franc, plein de choses, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y consacre une chronique musicale. Philippe, si jamais tu peux passer le premier extrait musical. L'extrait qu'on vient d'entendre et qui vient de s'arrêter un peu brutalement, j'en suis désolé, vient bien évidemment de cet album et il s'agit de The Great Gig in the Sky, dont la voix que vous pouvez entendre, appartenant à la chanteuse Claire Tory, n'a nécessité que 2 prises pour obtenir le résultat final. Ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs, en vue du résultat, vraiment très très agréable à écouter. Alors pour les présentations générales, il s'agit du 8e album studio de Pink Floyd, sorti en 1973. Il s'agit également de leur album le plus vendu, un vrai succès commercial monstre. Il a longtemps été classé au Billboard 200, un classement qui est fait par le magazine Billboard, qui est spécialisé dans la musique, qui en gros serait l'équivalent de notre top 50, mais en beaucoup plus gros. Donc pour revenir à ce classement, à votre avis ici en studio, Ingrid et David, à votre avis combien de temps est-ce qu'il a pu y rester dans ce classement ?
Il y a Philippe qui est pas content parce que tu l'as pas mentionné.
Ah ! Excuse-moi Philippe. Alors à votre avis, combien de temps il a pu rester dans ce classement ? Philippe nous dit 4 mois. Ok, plus
4 années.
Non, 4 années, ça. Plus
4 années, moi je dirais, oh là là, je dirais...
Plus que 4 ans ?
Plus que 4 ans.
10 ans ?
Plus.
Plus que... 20 ans ?
Non, moins.
Ah, 1000, non.
14.
Plus.
15.
Plus
17.
Exact. Il est resté 914 semaines au total.
Qu'est-ce que j'ai gagné ?
Et du premier coup, hein, bravo !
Je sais pas, après je pensais repasser un extrait totalitaire d'une musique.
Peut-être repasser un extrait totalitaire, ouais.
Peut-être, peut-être. Donc franchement, oui, il est resté 914 semaines au total dans ce classement, 17 ans, et c'est franchement pas mal, on peut le dire. C'est presque aussi bien que les albums de Jul. Et, et plutôt que d'en parler longtemps, je propose d'écouter alors un extrait totalitaire de cet album, la chanson Time. Philippe ? Thank you. ça a été Time, qu'on n'a pas pu passer en entier, parce que c'est vrai que les musiques de Pink Floyd généralement durent 6-7 minutes, ce qui peut être un peu long à l'antenne. Alors, cette chanson permet d'aborder le thème sous-jacent de cet album, qui est ce qui rend fou les gens, selon les propres dires des artistes du groupe britannique. C'est pour cela que cet album parle de sujets comme l'argent, un homme fou en liberté, ou même, dans la chanson que nous venons d'écouter, du temps qui passe. Time, l'une des deux chansons les plus connues de cet album, sert ici de Memento Mori, une jolie expression latine qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir », ce qui est très joyeux, et qui parle de toutes les œuvres d'art qui contiennent cette notion de mortalité. C'est un peu ça, la force de Pink Floyd. Ce sont en général de très très bonnes chansons de rock, un peu psychées, un peu beaucoup. C'est le genre d'album qu'il faut écouter d'un seul trait. En se posant dans son fauteuil ou son canapé, il faut le savourer. Mais c'est aussi un album avec un truc derrière, qui ne fait pas que de la musique pour faire de la musique. Il y a des expérimentations, de la recherche. Et le groupe anglais des Floyd Rose aime bien les albums qui vont au-delà de la musique. Prenez donc par exemple l'autre album le plus connu, The Wall. Savez-vous qu'il s'agit d'une uchronie en fait totalitaire, un peu comme un 1984, avant d'être un album et également un album contenant des chefs-d'œuvre, comme par exemple Another Brick in the Wall. Je vous invite donc à écouter ou à réécouter cet album, puis tous les autres autant qu'à faire. Je voulais passer un autre extrait de musique, mais c'est peut-être le moment de piocher un autre mot pour la chronique de la semaine prochaine.
Absolument. David. Avant ça, on va vous rappeler que... Il y aura un concours photo qui est organisé par la MEBA, donc la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. C'est un concours qui, dont le thème est l'Europe en un cliché. Alors pensez bien à tous les sens de cliché, au sens stéréotype et au sens de la photo même. Pour y participer et pour avoir la chance d'être affiché parmi les 10-15 photos qui seront affichées dans la MEBA et donc tirées à nos frais, vous pouvez envoyer votre photo à l'adresse mail MEBA. photo@gmail.com. N'oubliez pas d'envoyer la photo en HD. Et on passe tout de suite au tirage du nouveau mot pour la prochaine émission que Ingrid est partie chercher tout de suite.
En collaboration avec Philippe, merci beaucoup.
Merci Philippe.
Alors attendez, j'ai chopé un truc, mais je suis pas sûre de... Oula, il y en avait deux. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit, on prend le grand.
On prend le gros. Le gros, c'est toujours plus rigolo, les gros.
Bière.
Bière. Ah,
bière. Et Philippe est content puisque c'était ça mot, le mot qu'il avait mis dessus, magnifique. Et bien sur ce, on vous laisse à la semaine prochaine pour une émission en relation avec la bière.
En toute sobriété, bien sûr.
En toute sobriété, exactement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les mardis de 12h30 à 13h sur Eau de Radio 91.3 en rediffusion de 18h30 à 19h ou même en podcast sur le site www.auderadio.net. Bon après-midi pluvieuse.